Ce qui suit est une production de WebWest Balado en collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques. Bonne écoute! La série de balado Les passionnés de la table ronde rassemble des personnes qui ont quelque chose à dire sur un sujet donné qui intéresse les francophones de l'Ouest et du Nord du pays autour d'une table ronde. Aujourd'hui, l'enseignement du français en milieu minoritaire en Louisiane et au Canada. Nos passionnés, Charles Boucher, Nicole Thibault et Claudia Lejeune, rencontrés dans le cadre de l'Université d'été du Centre de la francophonie des Amériques à Lafayette, en Louisiane. Mise en contexte, au Canada, en milieu francophone minoritaire, on peut faire son parcours scolaire en français à travers deux grands systèmes, l'immersion et les écoles francophones. En Louisiane, c'est différent mais semblable. Avec nos passionnés, je cherche à comparer les parcours pour l'enseignement du français en Louisiane et au Canada. Je m'appelle Yann Dallaire. Voici l'enseignement du français en milieu minoritaire en Louisiane et au Canada. Bonjour tout le monde, merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. On va commencer par faire un tour de table. Je vous demande de vous nommer et me décrire brièvement votre expertise en éducation.
Bien, alors, bonjour, moi c'est Charles Boucher. En ce moment, j'habite à Burnaby, dans la région de Vancouver. J'enseigne pour le CSF, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, à Langley, à l'École des voyageurs. Puis, c'est ma quatrième année d'enseignement, donc j'enseigne la quatrième, cinquième année en école francophone. Puis, j'ai enseigné un an l'année dernière ici en Louisiane, dans l'école de Mamou, qui est une école d'immersion. Puis, sinon, j'ai enseigné deux ans à Montréal. Donc, je suis originaire de la ville de Québec.
Bonjour, Nicole Thibault. Je suis d'Ottawa, la région de la capitale nationale. J'œuvre en ce moment comme PDG de Canadian Parents for French, qui est un organisme, un réseau qui est de la majorité anglophone. Alors, nous représentons les parents qui ont des enfants inscrits dans les écoles anglophones à travers le pays et qui veulent avoir accès au programme de français langue seconde de qualité. Alors, soit français langue seconde comme core French, français de base, ou bien en immersion.
Bonjour, Claudia Lejeune. Je suis de Belgique, Wallonne, et je suis arrivée avec le coup de fil en Louisiane, au lac Charles, en 2011. Et depuis, je suis restée, en fait. Voilà, et je travaille pour la paroisse de Calcasieu.
D'accord. Bienvenue. Je vais commencer par toi, Claudia. En fait, si tu peux nous résumer un peu comment fonctionne le système d'éducation en français en Louisiane, on va partir de là.
Donc, le COLOFIL recrute des enseignants de partout de la francophonie pour venir conserver, préserver l'héritage français en Louisiane. Ça passe surtout par les programmes d'immersion qui commencent à l'âge de 5 ans au kindergarten. Ensuite, ils continuent donc au primaire, à l'élémentaire, du grade 1 au grade 5. Ensuite, du grade 6 au grade 8 au collège, au middle school. Et ensuite, au lycée, parfois on appelle ça l'immersion, mais en fait, ce sont des cours de français qui se donnent exclusivement en français. Il n'y a pas de contenu, ce n'est pas un cours de droit ou un cours de mathématiques qui se donne en français. Voilà, c'est vraiment un cours de langue. Ensuite, il y a aussi les programmes de français deuxième langue. Et moi, j'étais venue justement comme professeur de deuxième langue au middle school.
Est-ce que j'entends également que, bon, il y a le système d'immersion et le système de français langue seconde ou seconde langue. Est-ce que ça, c'est comparable au Canada? Est-ce que, Charles, tu dirais que ça l'est?
Bien, je pourrais dire que c'est un peu comparable au système canadien pour le FLE, en fait, que tu parles. Donc, c'est vraiment une école anglophone, par exemple, qui peut avoir des cours en français. Donc, ouais. Ça va être pas un contexte d'immersion, qui est un peu ce qu'il peut y avoir dans certaines écoles au Canada.
Moi, j'entends immersion, puis je comprends que c'est presque des écoles francophones.
Mais oui, ici, en tout cas, pour mon contexte de la Colombie-Britannique, oui. L'immersion, par exemple, que j'ai effectuée ici à Mamou, c'était pas vraiment de l'immersion, en fait. C'était juste 100% en français. Donc, c'était pas réellement une immersion selon notre système au Canada.
C'est environ la moitié des cours, en fait, à l'élémentaire qui a lieu en français. Donc, c'est les mathématiques qui sont enseignées dans la langue française, ce qu'on appelle les social studies, la géographie, l'histoire, qui sont données en français. Voilà.
D'accord.
Je pense que la différence, c'est un peu qui sont les élèves. Alors, pour nous, au Canada, si on dit que c'est un programme d'immersion, ça veut dire que c'est un anglophone qui a des parents anglophones, ils n'ont pas de lien avec le français. Alors, ce n'est pas leur culture, ce n'est pas leur parenté qui était francophone. C'est pas une langue perdue, c'est une langue de l'autre. Tandis que pour nous au Canada, les ayants droit qui avaient une langue, soit qu'ils l'utilisaient en famille ou ils l'ont perdue, ont accès à une école francophone. Alors, nous n'utilisons pas le terme « immersion » dans ce cas-là. Mais je crois qu'ici, en Louisiane, d'après ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes dont leur famille avait un lien au français, un intérêt, et sont inscrits en immersion parce qu'ils veulent retrouver leur français. Alors, je pense que c'est un petit peu des nuances.
C'est vrai, mais tout le monde n'a pas un héritage non plus exclusivement ici, louisianais. Il y a aussi des élèves qui viennent du Texas et donc qui se retrouvent dans l'immersion. C'est un choix des parents, en fait.
C'est ça. Le système d'immersion, c'est fait pour qu'on apprenne le français à travers le milieu scolaire.
Voilà.
Alors, on fait pas de distinction clairement avec la clientèle d'ayant droit et comme au Canada.
Et je pense qu'on a entendu cette semaine, c'est qu'il y a beaucoup d'hispanophones qui se présentent et qui choisissent l'immersion. Comme ça, ils vont avoir les trois langues. Alors, ils parlent espagnol, ils apprennent l'anglais et ils vont apprendre le français à l'école. Alors, ça, c'est intéressant. Ouais. On a de plus en plus d'immigration au Canada. C'est justement la même situation. On parle Punjabi à la maison. Alors, tant qu'à apprendre l'anglais, quand j'arrive à Toronto, je vais apprendre l'anglais et faire l'immersion française. Puis mon enfant va être trilingue aussi. Mm-hmm.
Il y a aussi des programmes d'immersion espagnole, si je peux me permettre. Parce que l'espagnol est aussi une langue d'héritage en Louisiane.
D'accord. D'accord. Est-ce qu'on voit aussi le même phénomène où est-ce qu'il y a des francophones qui s'en vont dans les écoles hispanophones?
Pas vraiment.
Peut-être un peu moins.
Mm-hmm.
Oui, d'accord. Bon, parlons de l'éducation en général, puis je sais que cette question-là, elle sert juste de tremplin, là, essentiellement, mais à quel point c'est important d'être capable d'éduquer nos enfants en français si on veut que le français perdure, qu'il y ait un système scolaire? C'est quoi l'importance du système scolaire dans la francisation?
Bien, moi, je pourrais commencer par dire que l'éducation, c'est la base de tout. Donc, si on veut un monde en français ou en ayant une certaine partie en français, mais à la base, il faut connaître le français. Puis comment on connaît le français? Bien, c'est par l'apprentissage du français. Ça me fait penser au contexte de la Louisiane où est-ce qu'on a perdu, en fait, une génération qui est la génération des parents un peu en ce moment, qui, eux, ne connaissent pas le français, en fait. Donc, ils ne pouvaient pas l'apprendre à la maison à leurs enfants. Mais ils savaient, puis ils ont entendu, lorsque eux étaient jeunes, leurs propres parents parlaient le français. Donc, s'ils veulent faire revenir le français en Louisiane, ils sont obligés de passer par l'éducation parce qu'eux-mêmes ne le connaissent pas. Donc, il faut qu'ils envoient leurs enfants à l'école. Donc, c'est là que l'école entre en compte pour être capable de faire revenir, revitaliser le français, puis de l'avoir sa pérennité par la suite. Et là, peut-être que quand ces enfants-là pourront parler français, bien, le cycle pourrait commencer.
À retourner à la maison.
Dans ma famille adoptive, si vous voulez, ouais. Mon mari, en fait, son grand-père parlait français, c'était sa première langue maternelle. Et il a été privé de parler français à l'école. Et suite à ça, donc, il n'a pas enseigné le français à ses enfants. Il a eu 4 enfants. Donc, le père de mon mari ne parle pas français. Mon mari a eu du français à l'école, mais juste un peu langue seconde. Et puis c'est tout, en fait. Donc là, vous voyez deux générations qui ont perdu le français.
Parce que ça a eu un impact réel sur la perte du français au niveau social.
J'ai eu l'occasion de parler donc au grand-père de mon mari, et on voyait encore cette peur, en fait, de s'exprimer en français. Il me disait « Oh, j'ai oublié », mais moi, je continuais à lui parler en français. Et je vois bien, il me comprenait, je le comprenais, mais il avait peur de s'exprimer en français.
Oui,
parce qu'il faut comprendre qu'ici, en Louisiane, par exemple, pendant 40 ans, le français était complètement interdit à l'école. Donc, tu te faisais frapper sur les doigts avec la règle si tu parlais en français à l'école. Donc, ces enfants-là, après, ben, ils ont une relation négative avec la langue française.
Il y a eu un traumatisme, en fait.
Mm-hmm. Oui, parce que les autres, parler français signifie châtiment corporel. On parle français, on a des douleurs physiques.
Exactement.
Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec ce qui s'est passé au Canada, peut-être?
Je pense qu'on approche ça d'une façon différente.
Okay.
Alors, d'après moi, nous, étant le Canada, c'est un pays bilingue. Alors, on vend cette notion à l'interne et à l'international. Alors, si on, c'est vrai qu'on a cette valeur de bilinguisme, il faut l'offrir à tout le monde. Puis je pense que c'était un peu quand j'ai mentionné l'immigration, ils arrivent au Canada, dans leur tête, le Canada est bilingue. Alors, mon enfant, pour contribuer pleinement à la société canadienne, doit être bilingue. Alors, on arrive déjà avec cette notion. Je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens, là, ça fait bien longtemps, sont anglophones. Ça fait 50 ans maintenant qu'on a l'immersion au Canada. Il faut comprendre que leurs parents ne parlaient pas français. Ils voulaient une meilleure éducation, accès pour leurs enfants. Ils ont passé par l'immersion. Mais maintenant, les membres de mon organisme, ils ont passé par le programme d'immersion. Ils parlent français quand même. Ils l'ont peut-être arrêté après le secondaire. Ils en ont fait peut-être au post-secondaire, peut-être dans leur travail, peut-être pas. Mais ça a changé leur identité. Alors, je crois que maintenant, c'est plutôt, ils veulent partager ça avec leurs enfants. Alors, peut-être on ne vit pas en français, on n'est peut-être pas francophone, mais on est fiers francophiles, on est fièrement bilingue, on participe fièrement à la société canadienne bilingue. Alors, c'est un petit peu une notion différente. J'entends cette semaine que les Louisianais cherchent, on enseigne le français, mais on aboutit à quoi avec ce français? Alors, ils se disent, bien, il n'y a pas vraiment de poste, il n'y a pas vraiment... Nous, on le vend aux jeunes, bien oui, tu vas avoir un meilleur poste. Tu vas avoir peut-être, tu vas être plus rémunéré dans ton poste. Tu vas peut-être travailler avec des gens qui ont les mêmes affinités que toi. Alors, tu vas mieux apprécier ton travail. Mais ce n'est pas seulement pour l'emploi. C'est vraiment parce qu'il y a un épanouissement, ça ouvre des portes, des opportunités. En général, je me fais des amis, je peux mieux connaître l'autre. Ma pensée change.
Ça améliore la vie.
Oui, mais je suis une personne différente parce que j'ai deux langues.
Ouais.
Et il n'y a jamais eu quelqu'un qui a appris une deuxième langue qui l'a regretté. C'est ceux qui n'ont jamais eu la chance qui disent « ben j'ai un problème avec le bilinguisme ouais. ». Alors, même, je pense, nous, on a des jeunes qui se voient plus comme citoyens globaux, citoyens, tu sais, du monde. Alors, dans leur tête, ça ne sera pas juste bilingue, ça va être trilingue. Ils vont apprendre des langues. Ils vont avoir un niveau plus élevé dans une langue qu'une autre, mais ils vont s'essayer. C'est ils vont être des preneurs de risques, je pense, nos jeunes.
Puis si je peux me permettre, par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser, dans mon contexte actuel, dans la région de Vancouver, on est une très grande partie de la population qui est d'origine immigrante. Donc, c'est des gens d'un peu partout, énormément de personnes de l'Asie. Puis j'ai l'impression que ces personnes-là viennent s'établir dans une province qui est majoritairement anglophone. Donc, dans leur vie quotidienne, ils vont souvent avoir l'anglais, donc ils vont apprendre l'anglais et ils vont aussi avoir leur langue native. Par exemple, comme le Punjabi tout à l'heure que tu parlais, on a beaucoup de personnes de l'Inde. Mais j'ai l'impression qu'ils vont se dire, bien, j'enverrai pas mon enfant dans l'école anglophone, je vais l'envoyer dans un programme qui va être en français parce que ça va lui donner justement toute cette plus-value par rapport au français. Puis, c'est aussi le sentiment de communauté aussi qu'on va avoir puis qu'on va retrouver dans les écoles francophones. C'est pas juste l'école francophone. J'ai l'impression que, en contexte minoritaire au Canada, j'ai l'impression qu'elle n'est pas juste... elle fait pas juste l'éducation, mais elle crée un centre communautaire qui va pas juste rassembler les enfants, mais aussi les parents des enfants, puis qui vont aussi organiser toutes les activités qui vont être en français, puis pas seulement sur le terrain de l'école, mais même à l'extérieur de l'école. Donc, c'est toute cette richesse-là du bilinguisme ou même du plurilinguisme rendu là, que comme je peux expérimenter exactement à mon école en ce moment.
Mais... Parlons de l'intérêt des enfants. Puis là, parlons directement dans le milieu scolaire. Est-ce que la décision parentale de faire en sorte que de se dire « mon enfant va bénéficier du fait que je l'envoie dans une école d'immersion, par exemple, ou même en français, ou même j'aimerais qu'il retrouve sa langue pour les Louisianais », est-ce qu'on sent dans la salle de classe un intérêt? Parce que moi, je vais faire le parallèle tout de suite avec... d'où je viens au Manitoba français, on a tout le temps ce combat-là de faire en sorte que l'élève parle plus français, apprécie plus le français, parle moins anglais dans les corridors, etc. Est-ce que c'est le même
défi? Je peux commencer. C'est sûr qu'avec l'immersion, on a trois points d'entrée. Alors, un point d'entrée, ce serait la maternelle. Alors, c'est, on le sait toujours, c'est important pour notre organisme d'avoir parlé aux parents qui viennent juste d'avoir leur petit bébé, puis leur dit planifiez déjà que dans 3-4 ans, vous allez les inscrire dans une maternelle en immersion. Tu sais, on fait déjà notre promotion, là, 3-4 ans à l'avance. Alors, c'est sûr que c'est une décision du parent. Nous avons une autre entrée qui serait l'immersion qu'on appelle l'immersion précoce, là, la première entrée. Et ensuite, c'est moyenne, là, vers la quatrième année habituellement. Mais ça, c'est le jeune qui fait ce choix-là. Alors, c'est souvent un jeune qui a eu des expériences très positives à l'école. Tu sais, « Oh, j'aime le français, puis ça a l'air que je suis bon. » T'sais, alors, oui. Je vais continuer. Là, ça fonctionne bien. Mais on a un autre point d'entrée on appelle ça l'immersion tardive. Alors, ce serait la 7e, 8e année. Alors, ça, c'est vraiment là, un jeune qui prend là, que « Ah, je pense que je vais avoir manqué le bateau si je ne m'inscris pas en immersion maintenant. Oui. » Là, je vois mes amis parler français, puis moi, je n'ai pas eu la chance. Alors, c'est vraiment là, dans la 7e et 8e année, l'enfant s'embarque. Puis, on a fait des évaluations. Leur niveau de français en 9e année, ils ont juste fait 2 ans, c'est à peu près à le même niveau que celui qui a commencé en maternelle.
OK, d'accord. En 2 ans.
En 2 ans. Alors, c'est différent chacun des voies. Je peux vous expliquer.
La motivation de l'enfant, de l'élève.
Fait toute la différence.
Oui.
Alors oui, c'est sûr que je représente un groupe pour les parents. Alors je vais vous dire que ben, l'important que d'un parent va choisir pour son enfant, c'est bon. Mais quand l'enfant choisit par eux-mêmes, ça fait une différence de motivation. Alors là, je vais juste sauter à une autre idée. Alors c'est sûr que c'est tough passer de la maternelle jusqu'à la 12e année dans une langue seconde, c'est en immersion, puis il y en a beaucoup qui veulent sortir à l'avance. Alors le taux d'attrition arrive vers la 9e année. Alors ils vont changer pour aller au secondaire en anglais, il y a d'autres sujets d'intérêt, etc. Mais souvent, on a fait des évaluations et les jeunes, ils ont dit « j'ai quitté trop tôt ». J'aurais dû rester jusqu'en la 12e année. Alors, il y a le regret qui se passe quand ils ont sorti. Alors, ça, c'est une autre petite histoire. Et j'ai mes enfants. Alors, moi, mes enfants ont passé à l'école en français. Puis, c'est ça, il y a la bataille qui se fait à la maison. On parle plus en français, on va faire tout. Bon, tout ça pour dire, ils ont passé jusqu'à la fin. Ils ont choisi d'aller au post-secondaire en anglais. Bien que maman n'était pas très contente, mais là, fini, ils ont eu leur poste. Pourquoi? Parce qu'ils sont bilingues. Oui. Alors, moi, j'ai mes enfants, ils ont 25 et 23 ans, et tous les deux reviennent me dire maintenant, « Merci, maman, une chance que tu nous as poussés, puis on a resté dedans, parce que ça l'a complètement changé. » Alors, quand ils deviennent adultes, c'est la réflexion encore.
Oui.
Alors, j'essaie de vous donner un petit peu...
Oui.
C'est toujours la motivation, puis je pense qu'il y a les expériences positives, puis par après, c'est quels sont les résultats que j'ai eus avec mon français.
Je suis curieux de poser la même question aux Louisianais. Quel est l'intérêt, quelle est la motivation chez la jeunesse? Parce que ce que j'entends, moi, c'est que la jeunesse revient là, tranquillement à être intéressée par sa francophonie. Est-ce qu'on le sent dans les écoles?
Alors, ça dépend, et je pense que c'est très différent d'une région à une autre, en fait, au sein même de la Louisiane. Mais c'est aussi, ça dépend de la motivation de l'élève lui-même. Parfois, on a les parents qui les obligent à faire l'immersion. Et là, ça peut causer des rapports difficiles avec l'élève, évidemment, en tant que prof. Parce qu'on se rend bien compte que l'élève, c'est un poids pour lui d'être là en classe. Et puis, on en a d'autres qui jouent de l'accordéon, qui font des feux de camp, qui sont vraiment louisianais et qui sont imprégnés de cette culture-là. Et qui parlent même un français louisianais encore, et qui font parfois un mélange en fait de français louisianais et de français standard. Et c'est à nous les profs à ce moment-là à pas les corriger justement, parce que par exemple j'ai des élèves qui vont me dire je vais au lieu de je vais, et là je dois le laisser parler en fait. Il faut surtout pas que je le corrige parce que c'est comme ça qu'il s'exprime dans sa communauté, et on ressent évidemment là l'envie de parler français quoi. Mais par rapport à ça, on a aussi l'autre groupe qui n'est pas très motivé, qui est poussé par les parents, qui me dit « Moi, ma maman, elle m'a inscrite parce qu'elle veut aller à Paris un jour. Et elle veut que je lui serve de traducteur-interprète. » Voilà.
Ouais.
Et c'est ça.
Charles, toi, à Vancouver, comment va la motivation des enfants ou des élèves?
Bien, si je parle à propos de mon milieu actuel, je dirais que les élèves en tant que tels, que tu le mettes dans un... à l'école primaire en français ou en anglais. Je pense que naturellement, un enfant est très curieux, donc il va avoir une certaine motivation intrinsèque de base. Mais c'est important en tant qu'enseignant. Je pense que l'enseignant a un très gros rôle à jouer dans la motivation de ses élèves pour qu'il y ait un rapport à la langue qui est positif. C'est pour qu'ils veuillent continuer à parler le français, il faut qu'ils aiment ce qu'il est en train de faire en français. Donc, si on lui montre que le français, c'est vraiment juste de la grammaire, de la syntaxe, que c'est un contexte qui est seulement académique, ben l'enfant, il n'aimera pas ça, puis il va penser, mais dans le fond, c'est juste l'école qui est le français. Pourquoi j'utilise... C'est un contexte qui est difficile aussi à apprendre. Donc, il va trouver qu'il y a trop de difficultés, puis il ne voudra pas continuer dans la langue le français, puis toutes les occasions qu'il n'a pas à parler le français, bien, il va les prendre. Mais par contre, si tu fais l'inverse, puis tu, en tant qu'enseignant, tu montres des situations d'apprentissage qui vont être ludiques, qui vont lui permettre d'avoir du plaisir, qui vont lui permettre de découvrir c'est quoi la francophonie, mais pas juste la francophonie, mais de découvrir, par exemple, faire une expérience science qui a du plaisir, mais qui est en français. Ça va être une expérience qui est authentique, puis que l'élève, puis l'enfant, il va se plaire, puis il va dire « Waouh, le français, c'est le fun parce que je fais ça, je fais telle activité, je peux jouer à ce jeu-là. » Donc, je pense qu'à la base, en tant qu'enseignant dans un contexte minoritaire, c'est de réussir à créer ce milieu-là pour se sentir bien en français, pour que l'enfant puisse faire une construction identitaire. Puis je pense que c'est l'élément principal de tout enfant ou de tout enseignant en même temps, c'est d'être capable de se construire. Bien, moi, ça fait partie de moi d'être francophone, mais je peux aussi ne pas juste être francophone, mais être anglophone à certains moments. Mais d'être francophone, c'est un plaisir pour moi, puis il faut que ce soit un mode de vie, il ne faut pas que ça me soit imposé. Puis je pense qu'on peut créer ça en tant qu'enseignant.
Je comprends. Moi, je dénote deux défis importants pour la Louisiane, l'enseignement du français en Louisiane. C'est le fait que ça s'arrête, entre guillemets, en huitième année. Mais aussi, est-ce qu'on n'a pas un défi de, justement, de quel français on enseigne, puis quelle culture on véhicule à travers le système d'éducation louisianais? Et peut-être même, on bouncera là-dessus, entre guillemets, là, pour le Canada.
Je pense qu'on est d'accord à dire que le français en Louisiane, on part du principe que tous les Français sont bons, en fait. Et avec le code fil, on a des profs qui viennent de Belgique, qui viennent des pays africains, qui viennent du Canada, de France, etc. Et donc, chacun apporte sa richesse linguistique. Par exemple, moi, je viens de Belgique, donc à mes élèves, je leur enseigne 70-90.
Ouais,
et
d'accord.
Puis, je leur dis, bah, vous choisissez. Et ils me disent, bah, c'est plus logique de dire 70-90. Donc, souvent, ils parlent comme moi, en fait.
En même temps aussi, des fois, on a l'impression qu'on veut garder le français louisianais qu'on avait il y a, avant, par exemple, les lois qui interdisaient le français à l'école. Est-ce que c'est réellement possible, dans le contexte actuel, de garder ce français-là? On peut le garder du mieux qu'on peut, mais le contexte actuel de la Louisiane est que les enseignants sont majoritairement pas louisianais dans les écoles d'immersion en Louisiane. Donc, le fait que chaque enseignant apporte sa propre petite graine de français différent, bien, c'est le nouveau contexte du français. Est-ce qu'on garde le français en Louisiane quand on fait ça? Oui, c'est le nouveau français louisianais. Mais ça n'empêche pas qu'on n'enlève pas le français des personnes qui sont âgées, par exemple, en ce moment. Mais je pense que si on veut garder une culture francophone, c'est comme ça qu'on peut le faire.
On réinvente la culture francophone, essentiellement.
On avance avec le changement parce qu'on n'est jamais arrêté dans le passé.
Oui, d'accord.
Pour moi, cette semaine, là, ça m'a ouvert les yeux et ça m'inquiète là, qu'on va penser qu'on va accepter tout français. Ça serait jamais acceptable chez nous. On parle souvent des jeunes en immersion. On ne sait pas un mot en français, bien, on l'invente. T'sais, c'est une petite joke, là. Alors, tu sais, je mets un petit accent français à la fin, j'utilise le mot anglais, je change la... Ça serait jamais acceptable chez nous.
Oui.
Je pense que ce que j'ai entendu ici, c'est qu'ils veulent avoir un respect pour le passé. Mais de vivre dans le passé, je ne pense pas que ça serait le meilleur choix. Alors, il y a peut-être une façon de le faire d'une façon respectueuse, mais je pense qu'il faut quand même faire attention qu'on ne veut pas enseigner à des jeunes des choses qui vont être vues comme des erreurs quand ils vont voyager dans le monde. Parce que, d'après moi, ces jeunes-là ne vont pas nécessairement toujours rester entre, tu sais, dans l'État. Ils vont se promener, ils vont rencontrer d'autres, puis ils vont se faire dire « tu dis ça mal ». Ils vont se faire, ils vont avoir des commentaires des gens. Ils vont pouvoir expliquer, bien, je parle avec ce français louisianais. Ouais. Mais je pense que les enfants doivent être assez, ils vont être informés que voici des exemples du passé. Tu peux choisir de parler comme ça, mais c'est sûr que quand tu vas aller à d'autres endroits, il faut adapter son registre de langue. Comme je le fais si je parle avec mes enfants ou je m'en vais faire une présentation formelle. Alors, il y a eu des choses cette semaine où je me dis, il faut penser un peu à comment on présente tout ça.
Mais moi, je vais me faire l'avocat du diable de l'autre côté, chez les Acadiens qui, eux, militent aussi pour que leur parler demeure, soit de plus en plus accepté. C'est vraiment intéressant, le bon français du moins bon français dans les différentes cultures nord-américaine, tu sais.
Et peut-être c'est pas dire bon et pas bon, c'est juste dire oui, il y a un standard, puis c'est pour mieux bien se comprendre, on va utiliser un certain standard. Mais c'est pas un négatif d'utiliser d'autres variations, mais il faut savoir quand l'utiliser, avec qui l'utiliser, dans quel contexte.
Si on veut qu'elles continuent d'exister, ces variations-là, il faut les enseigner.
Mais je pense que le français louisianais a un avenir, mais hélas, ou si on peut dire hélas, c'est plus du côté de la musique, le côté artistique, en fait, dans lequel ils peuvent vraiment s'exprimer librement. Après, à l'école, dans le contexte scolaire, s'ils passent un examen, le DELF, par exemple, diplôme d'études françaises, eh bien, ils doivent connaître la grammaire et ils doivent connaître la culture française, parce que le DELF, c'est un examen spécifique français, du gouvernement français.
Et nous aussi, on utilise le DELF au Canada.
Voilà. Oui. Ou alors, il faudrait participer à changer cet examen et qu'il s'ouvre plus à la francophonie et que ce ne soit pas un examen exclusivement français. Ou alors venir concurrencer, ou pas concurrencer, mais venir à côté avec un autre examen qui viendrait enrichir la langue française, qui serait vraiment sur le monde francophone et pas juste sur la culture française. Voilà.
C'est ça, parce que je pense que la culture du test va brimer les différents types, quels que soient les différents types de français. C'est sûr qu'un test, bien, on va se dire, il faut que ce soit ce type de français-là qui va être standard puis qui va être mis sur un piédestal parce que c'est lui qu'il faut avoir pour faire le test. Donc, je pense que c'est vraiment très difficile de trouver un test qui pourrait être en fonction du type de français qu'on va utiliser dans un endroit.
Je vais juste dire, le DELF qu'on utilise au Canada, c'est le test international. Alors, il n'y a pas le contexte européen. Alors, quand sont venues les premières années, c'est moi qui ai apporté le DELF au Canada, ça parlait de l'argent qui était en France, les euros, etc. Ouais. Puis nos jeunes au Nouveau-Brunswick, c'est quoi un euro? Ouais, ils lisaient, puis ça ne voulait dire rien de comme ça. Alors, l'ambassade de France a déjà fait un test international. Ils ont enlevé les symboles qui sont très français, là, centriques. Ouais. Ouais. C'est un test qui est utilisé comme on a testé en Égypte, au Canada, plusieurs pays, pour voir on avait trouvé des symboles qui étaient très France, là, puis on les a enlevés. Alors, tu sais, ça fait quand même depuis 2003 là, qu'on fait ce travail-là.
Mais je comprends. Là, je vais moi aussi me lancer dans une réflexion, parce que je comprends qu'il faut normaliser le français. Je comprends qu'il faut, à un moment donné, avoir une base commune, voilà. Oui. Mais il y a une partie de moi qui ça me dérange. Tu sais, le créole francophone n'aurait pas existé si on n'avait pas permis, à un moment donné, que la langue évolue dans le territoire. Puis moi, je veux pas que le chiac acadien disparaisse. Puis je veux pas que les métis de la Rivière-Rouge se fassent dire qu'ils parlent pas le bon français parce que, ben un, ça propage les sécurités linguistiques. Puis deux, c'est merveilleux quand même, ces petites niches francophones-là. Puis j'ai envie un peu que ça soit propagé dans leur culture régionale.
Il faut le préserver. Oui. L'aspect culturel, le respect pour l'histoire, etc. Mais est-ce qu'on... C'est un peu avec quel but on enseigne le français. Alors, si c'est pour par la suite avoir un emploi et voyager, etc., il faut quand même avoir une base commune. Je pense pas qu'on peut juste dire on accepte tout, là. Parce que l'employeur n'acceptera pas.
J'aime beaucoup l'aspect culturel, par exemple, de la musique, pour partager le français réellement louisianais ou quel que soit l'endroit d'où vient le français, je pense que la culture peut réellement apporter ce français de souche qu'on parle, que malheureusement, ici, le système actuel éducatif en Louisiane ne peut pas nous apporter parce que la majorité des gens qui parlent encore ce français-là louisianais cajun, c'est des gens qui sont très âgés, que la moyenne d'âge est très âgée. Donc, dans un monde, on dirait que je m'imagine, dans un monde utopique, où est-ce qu'on voudrait réellement partager ce français-là? Tous les enseignants de français qui viennent pour le Codéphile ici en Louisiane voudraient partager ce français-là, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on a la connaissance de ce français-là? Et nous, en tant qu'étrangers francophones, est-ce qu'on peut le partager? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait? Avoir des gens louisianais qui nous forment ou qui nous montrent, mais c'est des gens qui sont âgés, la population n'est pas là pour le faire. Donc, je pense que c'est pour ça que l'éducation, bien, on va montrer un français qui est d'où on vient, donc qui va faire une richesse francophone en Louisiane. Mais par d'autres vecteurs, comme la musique et la culture, bien, ça se passe. Puis là, on en voit dans ces domaines-là des personnes ici en Louisiane qui sont jeunes, puis qui participent à la culture.
Oui, et ces jeunes qui parlent le français louisianais, ils ne sont pas forcément intéressés par l'enseignement. Mmh. C'est ouais. ça aussi. Mmh. Ils sont peu nombreux et ils ne sont pas forcément intéressés à l'enseigner.
Ils veulent la propager d'une autre façon. Il y a d'autres avenues voilà. pour le français, mmh. qui est très bien.
Oui.
Oui. Intéressant. Selon vous, c'est quoi les défis qu'on a dans l'enseignement du français dans chacun de nos milieux?
Pour commencer, on pourrait dire justement les enseignants qui viennent avec le Codéphile, ils ne connaissent pas le français louisianais. Donc, on pourrait nous donner une petite formation avec des mots basiques et nous dire, voilà, si dans vos classes, il y a des élèves qui s'expriment comme cela, qui utilisent le mot « chaoui » au lieu de « raton laveur », eh bien, c'est tout à fait acceptable. Voilà. Même si vous faites passer l'examen du DELF, on fait une différence linguistique, on accepte. Voilà, on ne pénalise pas. S'il se dit « je vais au marché », c'est correct. Surtout qu'on a une approche pédagogique communicative. On n'est plus dans les vieilles traditions, grammaire, traduction. Et donc, à partir du moment où on comprend, le message passe. Voilà, t'as ton point, c'est bon, on retire
ça. Et
là,
je comprends qu'en ce moment, on ne fait pas ça du tout. On prend l'enseignant qui a son bagage, qui vient de son milieu. On le met dans une salle de classe et c'est parti.
C'est ça.
D'accord.
Il découvre.
Il découvre en même temps.
Mais avec mon expérience de terrain, maintenant, je peux dire que je sais tout ça.
Ouais.
Et donc, je pourrais facilement leur donner une petite formation.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Elle a un nouveau poste.
Oui.
Elle se prépare.
D'autres défis, Nicole, peut-être?
Ben nous, c'est en immersion au Canada. Certains, c'est que le défi, c'est qu'il y a plus de demandes que de places. Alors, on a environ 400 000 élèves en immersion à chaque année.
C'est un beau problème.
Oui, mais on pourrait avoir un autre 100 000 demain, si vous me donnez la place. Le problème, c'est qu'il y a un manque d'espace, il y a un manque d'enseignants, une pénurie d'enseignants français langue seconde à travers le pays et en francophone, aux écoles francophones.
Excusez-moi, il y a un manque d'espace?
Il y a un manque d'espace, de classes, des classes dans les écoles.
Ouais.
Il y a un manque de profs. Mais il y a aussi l'aspect que nous n'avons pas une garantie ou un droit à apprendre notre français langue seconde. Alors, le conseil scolaire peut dire, on limite, on met on n'ouvre pas de nouvelles classes, ouais. même quand la demande de parentale est là. Alors,
est-ce qu'il y a une volonté politique?
Mais je pense que, vous savez, il y a un livre blanc qui est sorti du gouvernement du Canada qui dit « No more waitlists in French immersion ». Alors, okay. il y a eu un grand investissement d'argent, mais je pense que c'est difficile dans les provinces, qui est la juridiction de l'éducation, pour ouvrir ces places. Alors, on ne l'a pas vu encore, que les grands changements.
Parce que si on avait l'infrastructure, si on avait les profs pour le faire, ce que ça coûte à l'État... Un jeune qui s'en va en immersion ou un jeune qui s'en va en anglais,
oui.
ça coûte pas plus cher. À l'État, je peux dire.
À l'État, non. Mais puis, n'oublie pas, on a les transferts qui viennent du fédéral.
C'est ça.
Alors, tu vas même recevoir plus d'argent quand c'est en immersion qu'en français de base. Alors, tu vas même faire plus d'argent. Mais je pense qu'il y a un manque de bonne volonté au niveau comme administratif de concevoir comment ça pourrait se faire, parce que ça prendrait des grands changements.
Ouais. Mais d'accord. En même temps, en lien avec le combien ça coûte pour envoyer un enfant, par exemple, à une école d'immersion ou à une école anglophone, il reste que les enfants qui vont avoir fait le parcours d'immersion vont pouvoir créer un contexte qui est bilingue dans leur province.
Absolument. Où,
Donc, ils vont régénérer un revenu qui a plus d'opportunités qu'une personne qui va être unilingue.
Là, tu me parles des succès, là?
Charles est toujours positif.
Je recherche le positivisme. Mais je peux repartir sur les défis.
Ben, peut-être une fois sur les défis de ton...
justement, ouais. C'est ce que Nicole vient juste de dire. Je pense que moi-même, dans mon milieu en Colombie-Britannique, le défi, c'est justement les ressources. Donc, les ressources de main-d'œuvre. Les enseignants, on est en manque d'enseignants. Puis, en tant qu'enseignant, on le ressent aussi. Parce que, ben, par exemple, juste pour avoir des tâches, pendant toute l'année, par exemple, à mon conseil scolaire, il y avait plusieurs tâches qui avaient juste... qui n'était pas comblé, en fait. Donc, nous, les autres enseignants, bien, il faut essayer de s'arrimer ensemble pour combler ces tâches-là. Par exemple, enseigner l'anglais, bien, si on n'a pas de professeur d'anglais dans nos classes, bien, ça va être difficile. Puis, par exemple, ça peut être aussi le directeur parce qui va aller remplacer un enseignant qui est malade parce qu'on n'en a pas d'autres enseignants suppléants qui vont venir remplacer. Donc, pendant ce temps-là, le directeur ne fait pas son travail de directeur. Puis, c'est aussi, on le voit aussi dans les infrastructures, comme Nicole parlait, parce que la salle de classe, moi, j'enseigne en ce moment dans une portative, par exemple, qui n'est pas une classe qui est réellement dans une école, mais qui est à l'extérieur. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup d'années aussi, comme on a pu voir là, avec la commission qui est allée en cours de l'école Rose des Vents en Colombie-Britannique, puis l'association de parents de cette école-là, qui ont fait valoir que les écoles francophones, pour ce qui est de mon cas, n'étaient pas aussi financées que les écoles anglophones, où il n'y avait pas les mêmes... c'était pas égalitaire. Donc, il a fallu que ça aille en Cour suprême du Canada pour que ce soit... pour qu'ils valident que c'est vrai qu'il y avait une inégalité dans ce que les services pouvaient être donnés éducationnels. Donc, puis là, c'est passé, mais on attend de voir qu'est-ce que ça va pouvoir apporter sur le milieu pour pouvoir avoir une vraie égalité pour les deux.
Comme on a constaté, les solutions ne sont pas arrivées encore.
Non, c'est ça.
L'équilibre n'est pas arrivé encore. Dernier tour de table sur les succès d'éducation en français dans nos milieux. Je vous laisse parce qu'on va conclure positivement quand même.
Notre succès, c'est le même qui était le défi. On a 400 000 élèves chaque année inscrits en immersion. Alors, tu sais, la volonté est là pour apprendre leur langue seconde. Alors, je pense comme valeur canadienne, ça existe encore, même 50 ans après. Les Canadiens, on est là. On croit que notre pays est un pays bilingue et on veut que chaque Canadien ait la chance de participer pleinement à la société.
Si je me permets, moi, dans ma province d'origine, le Manitoba, l'immersion fait énormément pour la francophonie, pour la francophonie de souche, en guillemets, avec, tu sais, il y a énormément d'élèves qui vont apprendre le français dans le système d'immersion. Énormément. Puis ça fait une grosse différence dans nos communautés.
Nous sommes les alliés de la francophonie. Oui. Là,
c'est comme mais vous êtes la francophonie aussi.
Oui, partie inclusive. Et il faut penser aux services de français. On est utilisateur des services. Mm-hmm. Alors, quand il y a plus d'utilisateurs, il va y avoir plus de services en français.
Voilà, voilà. Charles?
Ça me fait penser, dernièrement, dans ma classe, on a fabriqué le drapeau francophone de la Colombie-Britannique avec mes élèves en classe, puis on a pris une photo avec eux. Puis juste de voir que les élèves vont être capables d'aller dans un monde canadien bilingue en étant réellement bilingue, je trouve que c'est une richesse qui est incroyable. Donc, c'est d'être capable de faire partie de cette francophonie, mais aussi du monde canadien qui, pour moi, est bilingue.
D'accord. Claudia? Les succès de l'éducation en France.
Oui, le coup de fil a été créé en 1968 et le premier programme d'immersion française date de 1983 dans la paroisse de Calcasieux. Et il y en a toujours, donc c'est quand même que globalement, ça marche. En plus, il y a deux nouveaux programmes qui se font. Il y en a un qui va être créé au mois d'août à Pointe-à-Chien, je pense. Voilà.
Claudia Lejeune, Nicole Thibault, Charles Boucher, merci énormément d'avoir participé à ce panel. Ça a été un grand plaisir. On a le temps qu'on a, on aurait pu déballer mille affaires davantage. Mais ça a été un plaisir de vous rencontrer, au plaisir de vous voir.
Merci. Merci.
Vous venez d'entendre une production de WebOuest Balado. Découvrez une multitude de contenus audio francophones du Nord et de l'Ouest sur webouest.ca. On s'entend là-dessus!